Et c'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. C'est demain que le Conseil de Paris sera invité à faire citoyen d'honneur de la ville Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien en grève de la faim depuis 133 jours. Dossier signé Margot Steve. Nous nous rendons également à Liverpool au congrès du Labour. Son leader Jeremy Corbyn fait face à des adhérents très majoritairement favorables à une deuxième mouture du Brexit. Le Conseil de sécurité est, hasard du calendrier, présidé par les États-Unis et demain s'ouvre à New York l'Assemblée générale des Nations Unies immanquablement. Les regards se tournent vers Donald Trump qui, souvenez-vous, il y a un an, voulait effacer de la carte la Corée du Nord. Plus de mesures et de retenues au congrès du Modem, main dans la main avec la majorité, mais sans corset. François Bayrou s'arroge le droit de commenter les choix du gouvernement. Ce sera un reportage d'Adrien Toffolet. À la tribune du congrès du Labour, Jeremy Corbyn s'applique à ne pas insulter l'avenir, autrement dit à ne pas se montrer ferme sur des sujets lourds d'enjeux, au premier rang desquels figure la renégociation du Brexit qui passerait par un nouveau référendum, ce qui n'a jamais été le choix du leader travailliste. Et pourtant, les enquêtes d'opinion effectuées auprès des adhérents du Labour ne font pas dans la dentelle. Antoine Gignot, bonsoir. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes à Liverpool au congrès du Labour et si Jeremy Corbyn, Antoine, était obligé de revoir sa copie sur le Brexit?
C'est en tout cas ce qu'espèrent les militants. Ils sont près de 5000 dans les rues autour du centre de conférence où se trouve le chef du parti travailliste, avec des drapeaux européens, des pancartes, des slogans contre le Brexit. Les derniers sondages le montrent, ils sont 86% à penser qu'un deuxième référendum est indispensable. Beaucoup de parlementaires les soutiennent. Nous commençons seulement à voir ce que va être le Brexit, explique le député Chris Leslie. Il faut que le peuple puisse voter en connaissance de cause, en ayant toutes les données en main. Le chef des travaillistes, lui, est beaucoup plus mesuré. Jeremy Corbyn n'a jamais montré de sympathie particulière pour Bruxelles. Il promet toutefois de défendre la position qui sera majoritaire au sein du parti à l'issue du congrès. Officiellement, cette réunion est donc censée permettre de débattre de sujets de société, des différences de salaire, de l'égalité homme-femme, mais le Brexit reste au centre des préoccupations. Les militants voteront mardi sur le sujet.
Antoine, dans ces conditions, est-ce le bon moment pour arrêter une stratégie en vue de la bataille des législatives?
Visiblement, Jeremy Corbyn en est convaincu. Le but du chef de file des travaillistes, c'est de faire tomber Theresa May, quitte à s'allier, il l'a dit ce matin, avec les rebelles conservateurs. Quel que soit l'accord commercial que Theresa May ramène de Bruxelles, explique Jeremy Corbyn, nous allons contester les décisions du gouvernement. La meilleure façon de régler ça, dit-il, c'est d'organiser des élections législatives. Reste à savoir s'il aura le soutien de son parti. Corbyn défend une hausse des investissements publics, la renationalisation des chemins de fer, le contrôle des loyers, une politique très à gauche, loin du centrisme de Tony Blair. Et c'est là aussi l'une des difficultés. Il ne fait pas l'unanimité parmi les élus travaillistes. Les accusations répétées d'antisémitisme parce qu'il soutient la cause palestinienne l'ont aussi éloigné d'une partie des électeurs. Ce congrès va donc être aussi un affrontement entre les centristes et les déçus du blairisme, les nouveaux militants d'extrême gauche qui ont plébiscité Jeremy Corbyn. Pour leur plaire, il va devoir, peut-être pour la première fois, s'engager vraiment dans la bataille du Brexit.
Merci à vous Antoine Gignot à Liverpool. Gardons la mémoire de cette époque. Ne cédons pas aux sirènes similaires. C'est l'appel que le pape François a lancé à Kaunas, la deuxième ville de Lituanie, à l'occasion du 75e anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilnius, point d'orgue de 2 années d'oppression nazie. Plus de 200 000 juifs de Lituanie ont été assassinés, quelquefois avec la complicité de certains habitants. Mathilde Imberti suit pour nous la visite du souverain pontife dans les pays baltes.
Dans la principale synagogue de Vilnius, une poignée de membres de la communauté juive égrène le nom de leurs ancêtres disparus. Il ne reste pas plus de 4000 juifs dans tout le pays, 75 ans après la liquidation du ghetto, le 23 septembre 1943. Un jour de commémoration qui résonne plus fortement encore avec la visite du pape, estime Reynaldas Weisbrodas, directeur de la communauté juive.
On appréciait que le pape Francis trouve un moment pour rester et réfléchir dans le ghetto, de dire ça qui s'est passé, ça quelque chose que les catholiques ne peuvent pas oublier. On a perdu 80 000 juifs dans le ghetto de Vilnius.
L'étape au ghetto a pourtant été ajoutée in extremis au programme. Les organisateurs catholiques ne l'avaient pas prévu, ce qui n'a pas manqué de faire polémique. Elle est comme effacée après le discours intransigeant du pape.
Faisons mémoire de cette époque, afin de démasquer à temps tout nouveau germe de cette attitude pernicieuse, toute atmosphère qui atrophie le cœur des générations qui n'en ont pas fait l'expérience et qui pourraient courir derrière ces chants de sirènes.
Sans jamais citer de courant ou de dirigeant en particulier, le pape François appelle lors de ce week-end lituanien à la vigilance face au réveil de l'antisémitisme et face aux slogans simplistes.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a sèchement répondu à Téhéran au lendemain de l'attentat d'Avaz qui a coûté la vie à 29 personnes. Les États-Unis condamnent toute attaque terroriste n'importe où, point. Fin de citation. L'Iran, une pomme de discorde parmi quelques autres entre Donald Trump et Vladimir Poutine. À l'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'un des conseillers de l'Élysée qui a le sens de la litote qui parle. À New York, on ne s'attend pas à un grand moment de réconciliation entre les deux présidents. Et d'ailleurs, quelle ligne risque-t-il de tenir Donald Trump? Eh bien, élément de réponse avec à New York, Loïc Loury.
L'an dernier, il avait promis de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque. Aucune idée, en revanche, de ce que le président américain a en tête pour sa deuxième Assemblée générale des Nations unies. Donald Trump devrait s'accrocher à ce qu'il considère comme son grand succès diplomatique, le réchauffement amorcé avec Pyongyang, et employer sa rhétorique guerrière, cette fois contre l'Iran, devenu l'ennemi numéro un des États-Unis. Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a d'ailleurs donné le ton il y a quelques jours et affirmé que tous les endroits dangereux autour du monde portaient la marque de Téhéran. Le discours de Trump devrait être au moins aussi agressif. Le président américain, toujours aussi imprévisible, devrait donc rythmer cette assemblée générale au risque de faire passer au second plan un sujet aussi important que le réchauffement climatique, au risque également de mettre à mal une fois de plus le multilatéralisme avec sa marotte de l'Amérique d'abord. Le secrétaire général de l'ONU ne s'y est pas trompé. Nous avons plus que jamais, dit-il, besoin de cette coopération internationale. Tout n'est pas perdu pour autant. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement seront à New York cette année. C'est au moins 15 de plus que l'année dernière.
L'impéritie des autorités tunisiennes à l'origine de la colère des habitants du Cap Bon, cette péninsule du nord-est du pays, se sont abattues des pluies diluviennes donnant lieu à d'impressionnantes inondations qui ont détruit routes, commerces et véhicules par dizaines, 4 morts. Le gouvernement envoyait hier des renforts qui ont constaté que les wads, tout comme les systèmes d'évacuation, ne sont pas entretenus. Les 2/3 des habitants du canton suisse de Saint-Gall ont voté ce dimanche pour l'interdiction de la burqa dans l'espace public, une réglementation déjà en vigueur dans le Tessin voisin. Le Conseil islamique suisse qualifie cette interdiction d'islamophobe. Tous les électeurs de la Confédération seront amenés à se prononcer sur cette question dans un an. La politique française cette fois est un happy end au Modem. L'université d'été du parti s'est en effet refermée dans l'apaisement. La majorité bien représentée a reconnu ses torts. Et les troupes du Modem ont promis de ne plus être possiblement déloyales. François Bayrou ne manquera pas pour autant de commenter les choix présidentiels en toute liberté. C'est un reportage d'Adrien Toffolet.
Quelle est la place du Modem au sein de la majorité? Difficile d'y voir clair ces dernières semaines, mais la réponse a été martelée avec seulement quelques mots par les ténors du parti.
Loyaux et exigeants. Nous sommes libres et loyaux.
Loyauté et exigence.
Message bien reçu par l'exécutif, représenté par Christophe Castaner ce matin, lui-même venu refaire son mea culpa directement face à ses alliés après avoir reconnu l'arrogance de la République en marche pendant la première année.
Est-ce que tout a été parfait pendant ces 15 premiers mois? Ce serait totalement idiot de le prétendre. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nos deux formations auraient dû travailler plus étroitement ensemble. Et je le redis en toute transparence auprès de vous aujourd'hui. Alors que nous effectuons notre deuxième rentrée aux responsabilités, je crois que l'on peut dire que la première phase du quinquennat mérite une amélioration.
Unité et solidarité, comme l'a déjà exprimé François Bayrou, il a soutenu l'exécutif. Pendant l'affaire Benalla, il a salué l'arrivée du plan santé et du plan de lutte contre la pauvreté, mais il ne s'empêchera jamais de commenter les choix du président.
La majorité a besoin de voix libres qui s'expriment en son sein, sans que l'on considère qu'il y a une atteinte à quelque pacte majoritaire que ce soit. Nous sommes là parce que nous sommes alliés, parce que nous avons choisi librement cette alliance, cette solidarité, et nous continuerons à la faire entendre dans notre expression.
Bref, pour l'an 2, on garde le cap et tout le monde est content.
Adrien Toffolet à Guidel dans le Morbihan. La maire de Paris, Anne Hidalgo, va proposer demain après-midi au conseil de la ville d'octroyer la citoyenneté d'honneur à Oleg Sentsov, ce cinéaste ukrainien opposé à l'annexion de la Crimée et emprisonné en Sibérie par la Russie, est en grève de la faim depuis 133 jours maintenant. Margot Steve, bonsoir.
Bonsoir.
Margot, bien sûr, cela ne changera pas grand-chose pour Oleg Sentsov, mais c'est la carte du symbole que veut jouer la ville de Paris.
Et parce que jusqu'ici, la voie diplomatique n'a rien donné. Vladimir Poutine reste enfermé dans son silence, malgré les appels d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel et du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il reste donc, vous l'avez dit Mathieu, la force du symbole. La ville de Paris a d'ailleurs fait une exception pour Oleg Sentsov, puisqu'il n'y a d'habitude qu'un seul citoyen d'honneur promu par an par la ville de Paris. Cette année, la place était déjà prise par Nabel Rajab, militant des droits de l'homme emprisonné au Bahreïn. Mais la maire de Paris a choisi de faire une entorse à la règle en distinguant aussi le cinéaste ukrainien. Et cela peut faire bouger les choses, espère David Assouline. Le sénateur socialiste participe à la grève de la faim tournante lancée il y a 10 jours par un collectif d'intellectuels devant l'ambassade de Russie de Paris. Et il s'exprimera demain devant le Conseil de Paris pour plaider la cause d'Oleg Sentsov.
Je pense que ça fait partie des actions les plus fortes pour médiatiser et pour lancer un appel au monde, parce que Paris, c'est Paris. Les citoyens d'honneur de la ville de Paris, c'est quelque chose qui est accordé rarement. Et vraiment, comme Paris est reconnu par son histoire et par ses prises de position régulières, comme un phare de la liberté d'expression et de ce combat, je pense que c'est un moment très important. Il faut des actes pour rompre un silence, pour rompre aussi un isolement. Il faut des actes.
David Assouline qui va, dans les prochains jours, appeler les parlementaires à signer un texte pour demander à leur tour la libération du cinéaste ukrainien.
Parce que, Margot, tout simplement, l'état de santé de Oleg Sentsov est plus que critique.
La seule chose qui maintient désormais en vie Oleg Sentsov, ce sont quelques cuillères de substituts alimentaires que le cinéaste a accepté d'avaler chaque jour. De l'eau sucrée aussi. Mais après plus de 4 mois sans manger, tout peut lui être fatal, explique Michel Elchaninov. Il est fondateur du collectif Les Nouveau dissident qui soutient Oleg Sentsov.
Il est dans le nord de la Sibérie, les grands froids vont commencer, et ça c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que si Sentsov prend un coup de froid, s'il y a une petite infection à l'endroit du cathéter de sa perfusion, eh ben ça peut l'emporter, parce que évidemment il est dans un état, il n'a plus de défense immunitaire. Comme la machine du corps est très très affaiblie, tout peut le faire chavirer vraiment en quelques jours.
Mais dans la dernière lettre qu'il a écrite datée du 17 septembre, Oleg Sentsov ne parle pas de son état de santé. Il est comme toujours concentré sur son travail, explique Michel Etchaninov.
Sentsov, c'est vraiment une force de la nature. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Et donc il a envoyé des instructions sur son scénario, sur le film qu'il fera quand il sortira de prison. Et puis sinon, il dit qu'il est coupé de toute information. Sa télévision qu'il pouvait regarder est cassée. Et son abonnement à Novaya Gazeta, qui est le seul journal d'opposition en Russie, a expiré. Donc il se plaint de ne pas du tout savoir ce qui se passe. Et en fait, lui, il a envie de gagner son combat. Il a envie de savoir s'il y a des mouvements diplomatiques et politiques autour de sa grève de la faim. Et il n'en a pas. Donc il se plaint de ça.
Oleg Sentsov, qui de sa prison sibérienne ne saura pas qu'il est promu citoyen d'honneur demain. Il l'apprendra sans doute par la bouche de son avocat qui doit lui rendre visite dans les prochains jours.
Merci à vous Margot. Steve, merci pour ce dossier. Les grandes lignes météo avec ce soir. 5 départements sous vigilance orange en raison de vents tempétueux. Les Ardennes, la Moselle, le Bas-Rhin, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Retour au calme demain lundi, temps gris sur le nord-est le matin. Par la suite, l'ensemble du pays bénéficiera de belles apparitions du soleil. 18h14, cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.